Et en gros, son métier aujourd'hui, c'est consultant mondial en révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent le voir du monde entier en disant bah voilà, moi j'habite, je sais pas, au Pérou et je voudrais faire la révolution. Comment je peux faire? Et il les forme. Et je lui dis souvent que quand je raconte ça, ça fait rigoler les gens. Et il leur dit, mais tu leur diras que c'est un vrai métier. Hein. Je gagne de l'argent et tout, pour de vrai, quoi.
Voici, tu sais quoi, on va s'arrêter là, c'est fini. Vu que je suis dans le dédain et que toi, t'es dans le déni. J'ai trop d'envie de violence et puis de dégoût mêlé. Et ras-le-bol de voir ta sale gueule à la télé. Avec mes viscères, du fond de mon ulcère, pour mes adversaires, hein. Sincère, avec mes viscères, du fond de mon ulcère, pour mes adversaires, hein. Sincère, on va s'arrêter là. C'est un crachat sincère, dans vos gueules de faussaires, hein.
Eh ben bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Le Feu Vert, un bulletin écologiste, anarchiste, technocritique, anti-industriel. Je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas.
Salut Lorenzo.
Donc c'est le premier épisode, on va vous présenter un petit peu de quoi il s'agit avant de se lancer dans le vif du sujet. On va réagir à des choses qu'on voit. Des choses qu'on voit dans l'actualité, qu'on voit dans des articles, des vidéos, et qui nous font réagir sur des sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire l'écologie et tous les problèmes sociaux. Et ça va être l'occasion aussi de un peu préciser des critiques, des idées qu'on développe par ailleurs. Donc si vous connaissez le blog Le Partage, si vous connaissez Floraison, vous êtes très familière avec tout ça. Mais on va néanmoins commencer par un peu préciser nos prémices, histoire qu'on soit vraiment sûr dans quoi on s'engage et qu'il n'y ait pas trop de malentendus.
Tout à fait. Je pense qu'on peut commencer par rappeler que donc la perspective, si on dit écologiste, mais on va préciser écologiste naturien ou une perspective naturienne, on pourrait dire, pour nous resituer dans la lignée justement des anarchistes naturiens de la fin du 19e et du début du 20e. Pour l'essentiel, on va essayer de faire au plus bref, l'anarchisme naturien, du coup c'est une opposition à l'État, bien sûr, comme tout anarchisme, mais c'est aussi une opposition à l'industrie, dans la mesure où on part du principe, on constate que l'industrie, ça rime aussi avec hiérarchie. Il n'y a pas d'industrie sans système social hiérarchique et en plus de ça, a priori, il n'existe pas une seule industrie qui ne soit pas une nuisance écologique. Notamment parce que, en plus de ça, les industries se tiennent les unes les autres. Elles font système. Une industrie, elle n'existe pas dans le vide. Elle existe de concert avec d'autres parce qu'elle utilise des outils, des machines qui viennent d'autres, etc. Et ouais, si vous y réfléchissez aujourd'hui, essayez de vous poser la question, est-ce que vous sauriez citer une industrie qui est écologique, une industrie qui ne pollue pas, qui n'a aucun impact négatif sur la biosphère? Je pense que vous allez avoir du mal. Voilà, État contre l'État, contre l'industrie, contre le capitalisme.
Découle de nos valeurs qui sont un attachement à la nature en premier lieu également à la liberté, à l'égalité. Et c'est de ces valeurs-là que découlent nos analyses, que découlent du coup nos ennemis, les systèmes auxquels on s'oppose, parce qu'on est opposé à l'autorité et on défend la liberté.
Tout à fait. Du coup, dans la même veine, on parle le capitalisme. Bien évidemment, on considère que c'est un système qui est éminemment condamnable et qu'il n'en existe aucune version verte, propre ou même équitable. Il n'y a pas d'exploitation équitable, ça n'existe pas. Dans la lignée justement des anarchistes naturiens, on considère qu'il est aussi très important de prendre en compte et d'avoir comme de manifester une opposition au patriarcat aussi en tant que système de domination des hommes sur les femmes.
C'est sûr, parce que du coup on tente de s'opposer à toute forme de domination et une des plus ancrées et un peu le schéma sur lequel toutes les autres se sont construites, se sont formées, c'est bien cette hiérarchie qui est associée à la différence sexuelle entre les hommes et les femmes. Et c'est bien sur cette base-là que s'est fondé le patriarcat et tous les autres systèmes de domination. Moi, j'aime bien la définition de radical par la collection L'Échappée, où ils disent radical, c'est prendre en compte toutes les dimensions d'un problème, que ce soit économique, politique, psychologique et technologique. Et le capitalisme ne peut pas être seulement réduit à un système d'exploitation économique, puisqu'il envahit toutes les sphères de notre existence. Et c'est aussi une critique dans les fondements même de ce qu'on veut abattre, parce que le capitalisme et plus globalement la société industrielle se nourrit perpétuellement de ce qui ne l'a des critiques superficielles. Donc faut faire très attention à ça, parce que c'est un grand danger.
Ouais, donc en gros, enfin ouais, on précisera, c'est important de comprendre que le capitalisme, c'est pas juste un problème, c'est pas juste le secteur financier, c'est pas juste le fait qu'il y ait des gros écarts de salaire, c'est pas juste le fait qu'il y ait une distribution un peu inéquitable, ou des impôts un peu inéquitables. Non, c'est l'ensemble du système social dans lequel il y a des riches et des pauvres, il y a des exploités, il y a des exploitants, il y a des possédants, il y a des propriétaires, il y a des non-propriétaires. C'est le principe même la propriété privée, c'est l'existence de l'argent en tant qu'équivalent universel, avec tout ce que ça implique.
La réduction du temps et de la qualité de vie à des quantités abstraites.
Tout à fait, l'abstraction capitaliste. Mais on mettra quelques liens, parce qu'on ne va pas s'étendre trop là-dessus, c'est pas le sujet. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on va vous apprendre comment vaincre Poutine.
Oui, mais c'est vrai, ça va intéresser tout le monde.
Ouais, je pense qu'actuellement, là, c'est l'air du temps, quoi. Donc voilà, ça va intéresser tout le monde, certainement. Vaincre Poutine, la méthode pour vaincre Poutine, cette méthode on l'a découverte dans un article récemment paru sur le site Le Guardian, qui est un média de masse britannique lu dans le monde entier, un des médias les plus lus au monde, et dans lequel il y a une semaine, Bill McKibben a publié un texte justement intitulé « Comment vaincre Poutine », je crois, quelque chose comme ça. Il faut savoir que du coup Bill McKibben, c'est un écologiste américain. Son vrai nom, c'est William Ernest McKibben, mais bon, il est dit, le diminutif de William, c'est Bill. Et donc, Bill a créé en 2005 ou 2007 aux États-Unis, je ne sais plus exactement, l'ONG 350.org, qui aujourd'hui est une ONG internationale. Il l'a créé avec l'argent de beaucoup de fondations philanthrocapitalistes assez connues, plusieurs fondations des Rockefeller. Il y avait aussi... aujourd'hui, quand on va sur le site de 350.org, on se rend compte qu'il y a plus de 300 fondations donatrices listées, parmi lesquelles... ce serait très fastidieux de tout lister, mais on voit qu'au final, l'argent de...
Il y a Bloomberg, il y a Rockefeller, il y a...
Voilà, et l'argent aussi de Jeff Bezos, ruisselle jusqu'à eux.
Attends, je t'arrête tout de suite, Nicolas, parce que là, peut-être, il y a des personnes qui vont se dire, mais c'est quoi le problème ? C'est super de prendre l'argent aux riches pour faire des jolies choses avec. C'est détruire le système de l'intérieur.
Et ouais, exactement. Sauf quand ton objectif n'est pas du tout de détruire le système. Et du coup, en fait, c'est ça qui se passe, c'est que en fait, McKibben, ses objectifs à lui, et c'est ce qui le différencie totalement de son écologie à lui, qui est très très différente de la nôtre, n'a pas du tout pour objectif d'abolir l'État, d'abolir la hiérarchie, d'abolir la domination, d'en finir avec l'industrie, avec le système industriel. Non, non. Son ennemi, lui, c'est le changement climatique. C'est tout. Et donc, son objectif, c'est d'endiguer, de mettre un terme au changement climatique pour permettre la bonne continuation de la civilisation industrielle dans les meilleures conditions possibles. Et donc, il a réussi, dans le texte qu'il a publié dans le Guardian il y a une semaine ou 10 jours, à allier cet objectif d'en finir avec le changement climatique avec en finir avec Poutine aussi. Parce que oui, non, enfin, donc c'est le changement climatique, son ennemi, son principal ennemi, mais il y a aussi Poutine dedans. C'est Poutine et le changement climatique. Voilà les deux fléaux
Poutine
sur Terre.
Et tous les autocrates des pétro-États.
Voilà. Ouais. Sachant que les États-Unis, évidemment, ne sont pas un pétro-État.
Non, c'est pas mentionné. Non. Donc apparemment non. Non. Voilà. Ouais, non.
Et ouais, c'est, donc en fait, on s'est arrêté sur ce. Enfin, il nous a quand même, ce texte nous a marqué parce que dedans, McKibben, il dit des choses assez incroyables. Donc, en fait, il expose bien toute sa perspective dedans. On peut lire dans ce texte effectivement que McKibben ne s'oppose pas du tout au capitalisme. Au contraire, il considère que il faut juste le décarboner. Une fois qu'on aura décarboné le capitalisme, tout ira bien. Et d'ailleurs, en fait, il se fait même le défenseur d'une. Enfin là, il célèbre l'idée d'avoir une bonne économie, une économie qui fonctionne bien. Parce qu'il y a un paragraphe assez mémorable dans ce texte dans lequel il dit que la Russie a une économie pathétique parce que en fait que autour de chez nous, autour de nous, chez vous, si vous regardez les objets que vous possédez, il y en a assez peu qui sont made in Russia. Et donc c'est le signe que l'économie russe elle est assez nulle parce que donc elle construit pas beaucoup d'objets, elle est pas comme au contraire de l'économie chinoise parce que chez vous avez sûrement plus d'objets made in China que made in Russie. Et donc voilà, ça c'est le signe que la Chine par contre a une très très bonne économie. Là, l'économie chinoise est très très efficace. Là ils ont plein d'usines, ils envoient des objets dans le monde entier. Donc voilà, ça c'est le modèle d'économie pour Bill McKibben. Ça c'est une grande réussite. C'est une économie qui n'est pas pathétique.
C'est une véritable arnaque puisque tout écologiste un peu sérieux sait que le fait de produire engendre des nuisances et faut en plus voir les conditions sociales, mais le transport international, le déménagement du monde, enfin c'est une catastrophe pour la planète.
Ouais, c'est incroyable.
Et donc se lancer dans une compétition et se juger les uns les autres à qui exporte le plus, ça va à l'inverse du local, de l'écologie, de la mesure.
Bah ouais, il me semble que la plupart des écologistes comprennent pourtant que l'économie chinoise est loin d'être un modèle, qu'en fait plus l'économie se porte bien, moins la nature se porte bien. Mais Bill McKibben, non, il voit pas les choses comme ça. Il considère que non. Et au contraire, du coup, lui, son plan. Alors pour la méthode pour vaincre Poutine, c'est arrêter d'utiliser des combustibles fossiles parce que l'économie russe en fait fonctionne beaucoup grâce à des exportations de pétrole et de gaz. Et du coup, si on arrête d'utiliser du pétrole et du gaz, et bien ce sera game over pour Poutine. Et comme Poutine est un peu la seule mauvaise personne sur Terre, et ben en fait on aura gagné. Ouais, c'est une arnaque incroyable. Mais en fait, c'est vraiment on voit la réduction de l'écologie qu'on observe un peu partout aujourd'hui, la réduction de l'écologie à un taux de carbone atmosphérique, un taux en tout cas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le méthane aussi, parce qu'on l'a. Mais donc la question, c'est comment s'assurer que le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère demeure compatible avec la perpétuation douce et tranquille de la civilisation capitaliste industrielle. Et c'est ça l'objectif de Bill McKibben essentiellement. C'est pour ça que dans son dernier livre, en fait, Falter, il s'appelle, il est sorti il y a, je crois, un an ou deux, peut-être un peu plus, il explique que donc pour décarboner le capitalisme américain, en tout cas états-unien, il faudrait construire, il devrait construire là-bas 295 giga-usines de construction de panneaux solaires et faire un effort équivalent dans l'éolien. Comme ça, ils produiraient de l'énergie de manière décarbonée. Ça leur permettrait au moins de faire leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, en termes d'écologie, ce serait évidemment un désastre, hein, parce que ce qu'implique cette fameuse transition écologique que les écologistes modernes appellent de leur vœu, c'est un désastre environnemental, c'est des extractions incroyables de matières premières partout dans le monde. Et d'ailleurs, en fait, il en parle un petit peu, Bill McKibben, dans son texte. Il remarque que oui, c'est vrai que bon, même si on commençait la transition massive vers les renouvelables, qui est déjà en cours, mais même ça, c'est vrai que ça demande des minerais et qu'il y en a beaucoup qui sont en Russie. Et donc, il évacue ce problème. En tout cas, lui, il considère ça comme un faux problème parce qu'il dit qu'en fait...
Oui, parce que c'est de la magie, de toute façon.
Voilà, parce que de toute façon... En fait, ils considèrent que si les capitalistes industriels, si les chefs d'État mettaient suffisamment d'argent dans la recherche, en gros, ils parviendraient à trouver des substituts et du coup à se passer des minerais, des minerais importants que la Russie possède. En fait, ils trouveraient un moyen d'exploiter des minerais chez eux, et donc d'ouvrir des mines chez eux, de détruire l'environnement chez eux pour sauver le climat et la civilisation, bien sûr.
Magnifique. Parce que c'est pas grave en plus si les destructions se font un peu plus loin. C'est pas grave.
Bah non. C'est pas grave. En fait, détruire la nature, c'est plus très grave. L'important, c'est de ne pas émettre de carbone.
Oui, c'est
ou
vrai.
De gaz à effet de serre en général.
Mais même ça, ça ne marche pas. Même ça, c'est bidon. Même sur ça, il nous prend pour des andouilles. Puisqu'en fait, produire plus d'énergie dite renouvelable, qu'on soit bien clair, on est contre le pétrole, contre le gaz, évidemment. Il ne s'agit pas de choisir sa meilleure énergie. Il s'agit de critiquer toutes les nuisances. Et il n'y a pas dans toutes les énergies qu'on nous propose pour produire l'électricité, elles ont toutes un coût social et écologique et désastreux. Et les énergies dites renouvelables, au même titre que les autres. C'est juste que c'est... une nuisance avec une odeur différente, un goût différent, mais c'est quand même de la nuisance. Et en plus, elles se superposent les unes les autres. Il n'y a pas de transition. Elles s'empilent. Elles dépendent les unes des autres. Elles dépendent d'un système, d'un même système. Elles font système. Et c'est une arnaque de appeler à produire plus pour se passer des autres, parce que ça n'arrive pas.
Ça n'arrive pas, et ouais, comme tu le rappelles bien, en fait, la production d'énergie dite renouvelable ou verte ou décarbonée, elle dépend tout à fait, en fait, de l'utilisation de combustibles fossiles à tous les niveaux de la production, par exemple, d'un panneau solaire ou d'une éolienne, pour extraire les matériaux, pour les traiter, les acheminer, etc. On a besoin de combustibles fossiles. Donc, en fait, pour l'instant, c'est relativement, en fait, mensonger de faire croire aux gens qu'on pourrait remplacer toutes les industries et tous les combustibles fossiles par des énergies renouvelables, parce qu'en fait, les renouvelables ou les énergies vertes ou propres ou décarbonées dépendent tout à fait des combustibles fossiles. Donc même ça, c'est une arnaque. Mais effectivement, comme tu le rappelles aussi, le truc, c'est que dans la perspective naturienne qui est la nôtre, on est opposé à l'industrie en général. On est opposé donc à l'industrie fossile, à l'industrie du nucléaire, comme à l'industrie du panneau solaire photovoltaïque ou à l'industrie de l'éolienne, parce que tout implique des nuisances. Et ça, en plus, c'est quelque chose qui commence à être un peu reconnu dans le milieu, même dans le milieu un peu des écologistes médiatiques. C'est plus ou moins reconnu grâce à des gens comme Jean-Marc Jancovici qui explique qu'en fait aucune il n'y a pas d'énergie propre. En fait, ils le reconnaissent, ils le disent comme ça parfois, même il me semble de manière assez littérale. Et donc, en fait, mais ils n'en tirent aucune conclusion de ce fait que, de cette remarque qu'en fait, il n'y a pas d'énergie propre. Et donc, en fait, c'est, comme tu dis, ils finissent par se dire, je vais choisir le moindre mal, quoi. Je vais
oui,
essayer
parce
de
qu'on
choisir
a pas le choix.
Le
moindre mal. Voilà. On n'a pas le choix.
Parce
de toute
qu'on
n'a
pas le choix.
Le système,
il faut
continuer,
qu'on produise de l'énergie. Voilà. Donc, il faut choisir ton poison et continuons à détruire le monde tranquillement. Mm-hmm. Et voilà, c'est ce que propose Bill McKibben au final. Sauf que lui, son poison, ça va être les nouvelles industries dites de production d'énergie dite verte, propre, renouvelable, le solaire, l'éolien, etc. Alors que le poison de Jancovici, c'est plutôt le nucléaire, quoi.
Et dans la situation de l'Ukraine, le nucléaire, on le retrouve à la fois dans ce qu'on appelle la partie militaire et à la fois dans la partie civile, que ce soit la menace de la bombe, de la guerre nucléaire, du conflit nucléaire, ou tout simplement le Tchernobyl, les combats qui ont lieu à Tchernobyl et qui menacent aussi de raviver les braises d'une catastrophe industrielle précédente. Moi, cet article, il y a un truc qui me, bon, il est honteux à tous les niveaux, mais je trouve il y a un élément clé de compréhension. Il utilise le nous tout le long, mais il dit pas qui est ce nous. Et en fait, ça devient assez évident en lisant qu'il a pas besoin de définir qui est ce nous, puisqu'en fait, il parle de l'État, donc de l'État américain, des États-Unis, et en fait du capitalisme, en fait des capitalistes. Et il s'identifie tellement à eux, à l'industrie, qu'en fait, quand il dit nous, en fait, il parle de l'industrie. Il dit nous devons produire ça, nous devons faire ça. Et, ouais. Et en fait,
c'est pour ça qu'il arrive. C'est une forme. Moi, je dirais que c'est un tic de langage qui est assez commun justement chez les écologistes médiatiques aussi en France ou partout. C'est plus que. Enfin, je sais pas si je dirais que c'est le capitalisme. C'est quasiment. Ouais, c'est. Enfin, c'est pour moi, c'est l'ensemble de. C'est une sorte d'identification à l'ensemble de la nation, tu vois, l'État, tout le monde, quoi. C'est un grand nous général, comme si on était une grande famille unanime de personnes qui veulent la même chose, avec les mêmes intérêts, tu vois, c'est vraiment ce truc de. Enfin, c'est l'irénisme, en fait, le plus classique, quoi.
Ouais, ouais.
Tous copains, il n'y a pas d'intérêt contradictoire, il n'y a rien, tout va bien.
Vu qu'il appelle à une économie de guerre, et donc une guerre de l'économie. Et à une espèce d'état d'urgence, d'économie de guerre. Donc toute l'industrie dirigée dans une direction et ça file droit, quoi. On ne discute pas, on intensifie la production. Quand Hitler il a commencé à envahir d'autres pays, les États-Unis ont produit des tanks, des bombes, voilà, des machines de guerre. Et maintenant. Nous devons répondre avec des renouvelables. Et rien que ça, et c'est le sous-titre. Hein, et rien que ça, bon, tout écologiste qui s'intéresse à l'agriculture connaît d'où vient l'agriculture industrielle et les moyens techniques de l'agriculture industrielle sont un héritage de la guerre et des mutations qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'au sortir de la guerre, fallait bien faire quelque chose de ces industries. Et ces industries qui fabriquaient des bombes et des tanks se sont mises à faire des tracteurs et des pesticides, des engrais. Et aujourd'hui, on se retrouve avec toute une panoplie de machines de guerre contre la nature et contre les paysans qui, voilà, maintenant, enfin, bonne chance pour s'en sortir. Parce que ça a été, par la guerre, ça a été infligé, incrusté dans le système et intensifié.
Ouais, parce qu'il faut, ouais, une image que Bill McKibben aime bien prendre pour faire sa promotion du développement massif des énergies renouvelables, décarbonées, ouvertes ou propres, c'est effectivement ce truc de la période aux États-Unis, mais pas seulement. De la période de la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle le système industriel a été restructuré de fond en comble. Tout d'un coup, il a fallu produire, à la place de ce qu'on produisait avant, il a fallu produire des tanks, des avions, des missiles, des armes, etc. Et tout ça s'est fait, donc voilà, enfin, c'était une économie de guerre, quoi. Ça s'est fait, c'était la planification étatique intégrale, c'est une poignée de dirigeants qui décide de tout, qui décide de tout changer, de tout chambouler, de tout revoir. Et donc c'est, enfin, en matière de, bon, déjà l'État, c'est déjà un type d'organisation sociale fondamentalement antidémocratique, fondamentalement hiérarchique, avec des dirigeants et des dirigés. Mais l'État en mode économie de guerre, c'est le truc le plus antidémocratique qu'on connaisse. Et c'est ça dont il fait l'apologie. C'est ça qu'il célèbre. C'est ça qu'il voudrait voir se produire partout dans le monde entier, dans tous les États.
D'ailleurs, c'est presque le fonctionnement. Pardon.
Ah, vas-y.
Ouais, c'est presque, je trouve, le quand on voit les États en guerre, c'est leur fonctionnement normal. Voilà,
oui, au final.
On les voit à l'œuvre, on voit en fait de quoi ils sont capables, en fait, on voit à quoi ils servent.
C'est clair.
En parlant de ça, je suis choqué de lire dans tout son argumentaire de charlatan pour nous vendre des merdes. Il dit, un des pires aspects de la réalité d'aujourd'hui, c'est notre impuissance. Non mais le mec, oui, mais du coup, en fait, tu proposes que ce soit pire. Oui, il dit ça. Il dit, mais du coup, voilà, on a une solution, en fait, c'est les panneaux solaires.
Contre l'impuissance.
Ben ouais, c'est le deuxième paragraphe.
Ah ouais, ok. Je me rappelais pas que c'était. Ok. Bah pourquoi pas. Écoute,
si on est impuissant parce qu'il y a Poutine qui a pris une décision. On est impuissant. Et du coup, on va augmenter la technologie de l'impuissance. On va augmenter les politiques de l'impuissance.
Mais en fait, tu vois, ça fait penser à ce truc qui. C'est un discours qui se tient un peu partout maintenant, même dans les médias. Même jusque dans des médias un petit peu plus alternatifs, on va dire, ou indépendants comme Reporter. cette idée que si on que les énergies renouvelables ou vertes ou propres ou décarbonées sont synonymes de plus de pouvoir pour les citoyens. On encourage, c'est les fameuses centrales citoyennes solaires, on encourage les gens à participer au financement de ces trucs-là, alors qu'en fait ça leur donne absolument pas du tout plus de pouvoir politique dans leur vie. C'est vraiment, c'est juste de l'arnaque. C'est, ils participent eux-mêmes à, ils financent eux-mêmes leurs propres servitudes. C'est tout, et on leur dit de faire ça, on leur dit que ça va leur, enfin on leur fait miroiter plus de, on sait pas pourquoi d'ailleurs, il y a aucune raison logique de leur faire croire ça, mais on leur dit, enfin, il y a aucune raison logique derrière ça, mais on leur fait croire que oui, si vous financez vous-même l'installation, si vous participez en tout cas à financer vous-même l'installation d'une centrale solaire dans votre ville ou près de votre village, vous allez avoir plus de pouvoir. Mais il y a aucune, en fait, non, il y a rien du tout. C'est vraiment c'est un des arguments faux de base, un des mensonges verts assez classiques, ce truc de l'empouvoirement.
Un vernis citoyen.
Ouais, le vernis citoyen, ouais. Comme si, enfin, les gens ne sont les gens sont tout à fait, c'est pas eux qui fabriquent les panneaux solaires, c'est des multinationales qui fabriquent les panneaux solaires quelque part, mais ils les payent, ils participent à les acheter, du coup ils ont vachement de pouvoir. C'est vraiment
parfois ils font une petite plus-value, mais bon, c'est les règles du capitalisme, quoi.
C'est ça, au mieux c'est tu gagnes un petit peu d'argent. Un truc amusant aussi qu'il faut voir, c'est que Bill McKibben, donc il est considéré comme un très grand écologiste aux USA. Hein. Il a reçu plein de prix, il a été très primé. Mais malgré tout, quand on lui demande qui finance son organisation, il est un peu mal à l'aise. À une époque, en tout cas, il était mal à l'aise. On ne sait pas s'il serait mal à l'aise aujourd'hui. Mais il y a une petite vidéo amusante qui circule sur Internet où une journaliste lui pose la question de savoir qui finance son organisation. Et tout d'un coup, il a une sorte d'Alzheimer instantané, il perd la mémoire, il sait plus où il est, il sait plus qui il est. Et, il faut que la présentatrice lui tire les verres du nez, vraiment, il faut qu'elle lui demande, mais vous êtes sûr que les Rockefeller vous financent pas ou quoi? Et là, tout d'un coup, ça lui revient.
Enfin, il dit, oui, au début, ouais, au début, ils m'ont aidé. Et plus maintenant, il réfléchit encore parce qu'il n'est pas sûr. Et si, il nous aide encore maintenant, en fait. Oui, les Rockefeller. Mais évidemment, parce que c'est une fortune des énergies fossiles.
Qui cherche à se reconvertir maintenant. Ils veulent faire un nouveau business, et le nouveau business, c'est le renouvelable.
Donc ça la fout mal. Mais il le sait que ça la fout mal. Mais je sais pas si les personnes dans 350.org ou proches, en tout cas. En France, par exemple, savent à quel point c'est un guignol et à quel point
je pense pas.
C'est scandaleux, ça.
Ouais, il est assez peu connu en France, effectivement. Et c'est toujours pareil. Les militants de la base, en général, ils savent pas grand-chose. Des fois, ils savent pas qui finance leur organisation. Ils sont là, ils tractent, ils donnent des trucs. Mais normalement, plus tu montes
avec
dans la hiérarchie,
avec les meilleures intentions du monde.
Avec oui, ça peut être de très bonnes intentions, mais voilà, c'est encore une fois, et malgré tout, il participe à la réduction de l'écologie, à cette obsession pour le carbone, enfin, en tout cas les gaz à effet de serre, et voilà, c'est quand même assez incroyable d'avoir réussi à faire de l'écologie, à la base, qui est un mouvement en défense de la nature, à faire de l'écologie un mouvement qui demande à ce qu'on fabrique de nouvelles machines qui vont faire de l'énergie pour alimenter nos autres machines. Et ça c'est sauver le monde.
Il y a quelque chose aussi qu'on entend en ce moment, c'est la psychologisation de Poutine. Et ça me dérange à plein de points. On cherche à savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête, c'est quoi... à quel point il est un psychopathe, qu'est-ce qu'il a eu pendant l'enfance, mais ça nous détourne du problème, en fait. C'est que effectivement il y a un homme très problématique qui est à la tête d'un grand État puissant avec une arme nucléaire entre les mains, mais le problème c'est bien qu'il y a un État puissant avec une arme nucléaire. C'est pas que Poutine soit là, parce que si c'était quelqu'un d'autre, ce serait tout autant problématique, puisque de toute façon, c'est fait sur mesure pour lui, pour des gens comme lui. En fait, ce système va forcément attirer et mettre au pouvoir des personnes qui veulent posséder une telle arme de destruction qui est dirigée contre toute la population mondiale, en fait. Qui veut finir là ? Forcément, un système comme ça va engendrer les pires comportements dont l'humanité est capable. Et c'est de ça dont il faut se défaire. Si on veut lutter contre la guerre, il faut abolir ces systèmes de hiérarchie, ces systèmes qui créent la guerre, ces systèmes qui ont besoin de la guerre pour survivre.
C'est ce que tu dis, ça fait penser au... C'est le philosophe français Alain qui faisait remarquer, je crois que c'est dans son livre Propos sur le pouvoir, où il dit que de toute façon, le pouvoir n'attire que ceux qui le veulent. En fait, pour paraphraser, que les postes de gouvernance attirent les êtres humains qui sont les pires, en fait. Les gens, parce que les gens bons, les gens gentils, les gens, ils veulent pas diriger les autres. Ils ont pas cette envie malsaine, en fait.
Et au final, ça nous rend tous un peu comme ça, puisqu'on est tous pris dans cette structure qui va récompenser les comportements les plus irresponsables, les plus avides, cupides, égoïstes.
Clairement. Et d'ailleurs, enfin voilà, d'où l'importance, si on veut arrêter les guerres, si on veut en finir avec ça, c'est donc à la fois d'abolir l'État, d'abolir l'industrie, parce que là, ce que Bill McKibben il encourage avec le développement massif des industries de production d'énergie dite renouvelable, verte ou propre ou décarbonée, c'est une nouvelle vague de conflits potentiels, et ça va sûrement dégénérer en conflit, parce que ça va être une lutte pour les dernières ressources de la planète. On voit déjà que actuellement, les États et les industriels commencent à réfléchir à aller racler les fonds océaniques pour récupérer des minerais nécessaires à la transition énergétique, ou transition technologique, c'est pareil, ou transition écologique. Les trois mots sont interchangeables, écologique, technologique ou énergétique aujourd'hui. Et voilà, les mines de lithium qui s'ouvrent ici et là, c'est encourager ces illusions vertes, encourager ce truc des énergies dites vertes, propres ou renouvelables ou décarbonées, c'est encourager de nouveaux désastres, c'est encourager la continuation du pillage de la nature, de sa destruction. Et ça va faire des conflits, évidemment. Y a plein d'instituts qui examinent déjà, qui essayent de réfléchir à ce qui va se passer, à ce qui pourrait se passer, parce que certains pays possèdent plus de minerais nécessaires que d'autres pour justement effectuer pour développer massivement ces nouvelles industries de production d'énergie. Et donc voilà, il y a plein de conflits potentiels dans cette histoire, et donc c'est vraiment vraiment, enfin, à tous les niveaux, il se plante s'il prétend que qu'en abandonnant le pétrole et le gaz et en passant au renouvelable, les conflits comme ça vont disparaître. Non, pas du tout. Si on veut que ces conflits disparaissent, il faut qu'on en finisse avec effectivement l'État et l'industrie, mais pas juste avec le pétrole et le gaz.
C'est ça. Et la guerre pour les ressources ira même sur les astéroïdes, s'il le faut, si c'est possible, elle ira partout. Et on s'en sortira pas en donnant des droits aux rivières et en donnant des droits aux fonds marins, mais en détruisant dans ses fondements la technostructure, le technosystème qui en est à l'origine, et la culture qui l'accompagne.
Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur Bill McKibben.
Ouais, je pense. Moi, je ne le connaissais pas bien. Je pense qu'il n'est pas beaucoup connu en France. Mais il a l'air d'avoir pas mal d'influence à l'international.
Beaucoup.
Et ça en dit long sur l'époque actuelle.
Très, très. Et quand tu vois, tu sais, je te disais, il est à la base, un de ses premiers métiers, c'est journaliste. Et il continue, du coup, là, il écrit dans le Guardian de temps en temps. Il écrit pour d'autres médias de masse. Il a écrit un article il y a quelques années pour le New Yorker, un gros reportage, dans lequel il s'extasiait parce qu'en fait, en Afrique, il commence à y avoir les énergies dites renouvelables commencent à se déployer un peu en Afrique. Ouais, et c'est super parce que maintenant les Africains peuvent tous avoir un téléphone portable et le recharger etc. Voilà le genre choses que dit McKibben, qui on ne devrait pas avoir beaucoup à commenter. C'est complètement idiot. Il y avait aussi c'est un champion. Et enfin voilà, c'est un écologiste moderne. C'est un écologiste. Lui avec ce genre de discours et de trucs, il a le droit à des subventions, d'importantes subventions de la part de personnes très riches.
Mais c'est ça qui est bien, parce que du coup, ça lui permet d'avoir un salaire confortable pour faire de l'écologie, pour sauver la planète. Il sauve la planète et il peut écrire, il peut militer, et comme ça, il n'est pas corrompu grâce à son salaire.
Non, parce qu'il est déjà corrompu. Il est corrompu de base, donc voilà, il n'y a pas de problème.
Il est incorruptible. Il est déjà corrompu.
Nous, on pourrait essayer de le corrompre pour le ramener dans le camp de l'écologie, mais on va galérer parce qu'on ne peut pas lui proposer de salaire aussi important que ce qu'il reçoit, je pense.
Ouais, non.
Malheureusement.
Désolé. Ouais. Il va falloir compter sur autre chose.
C'est quelque chose aussi vraiment d'important à rappeler. Si c'est peut-être un dernier truc qu'on peut dire, c'est parler de. Parce que. En fait, tout ce dont on parle là, en parlant de Bill McKibben et de son organisation 350.org, on est en train de parler de ce que Arundhati Roy appelle l'ONGisation de la résistance, le fait qu'aujourd'hui l'opposition en fait en général, la contestation du système, de quelque manière que ce soit, elle se réduit vachement à des ONG, à plein d'ONG dans plein de secteurs, l'écologie y compris. Et en fait, c'est une opposition de façade, parce que ces ONG, bien souvent, en fait, les plus connues, celles dont on entend parler à la radio, à la télé, etc., elles sont soit financées, soit partenaires d'entreprises, soit etc. Donc elles sont mouillées là-dedans, et c'est ce qui explique leurs objectifs tout pourris. Et c'est ce qui explique aussi, ça entretient cet activisme un peu de spectacle qu'on voit. Parce que du coup, en fait, c'est de ce système-là que sortent les activistes qui organisent des manifestations, des happenings, des rassemblements à Paris, qu'on voit, qui ont leur haut-parleur, qui se mettent à chanter « On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat ». Et ben, c'est des gens qui sont... ils se considèrent eux-mêmes comme... Ils se décrivent eux-mêmes, en fait, comme activistes professionnels. C'est leur métier. Leur métier, c'est contestataire professionnel. Je suis payé pour contester, je fais des chansons, je fais des rassemblements. Mais bon, au final, leur analyse, en général, elle est toute pourrie. Ils contestent pas grand-chose. Voilà, leur ennemi... dans le cas de 350, leur ennemi, c'est juste les industries des fossiles. C'est tout. En fait, gaz et pétrole. Ouais, et c'est tout, c'est pas le capitalisme, c'est pas l'État. Et voilà ce que ça fait.
Non, ils ont même un slogan, pas d'emploi sur une planète morte, pas d'industrie sur une planète morte, je sais plus.
Ouais, c'est ça, ouais, il me semble.
Faut pas arrêter d'opposer industrie et écologie.
Ah oui, ça c'était beau ça.
Ouais, ils sont formidables.
Ouais, c'est formidable. Ouais. C'est la déformation professionnelle, du coup, ce qui se passe quand le capitalisme s'empare de l'écologie, voilà ce qui se passe. Mais voilà, c'est vraiment un phénomène super nuisible, parce que du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout au courant de tout ça, et qui réalisent pas en fait que cet activisme dont ils sont témoins, dont ils entendent parler, ils voient ces manifestations, ils voient ces gens et tout, mais ils comprennent pas que ces gens-là en fait sont des activistes. Enfin, c'est organisé par des activistes professionnels qui sont payés pour ça, qui sont salariés d'entreprises, enfin d'ONG, qui sont elles-mêmes, qui peuvent être elles-mêmes financées par des entreprises ou des fondations capitalistes. Et donc voilà, ça fait un activisme.
Passe par plein d'intermédiaires pour que on n'y comprenne rien. Oui. On se doute de rien.
Oui, parce que du coup, effectivement, on le voit d'ailleurs dans le financement de 350, il y a deux grosses, je sais pas comment on les appelle, c'est des fondations, mais qui en fait sont des, il y a un terme, je crois, elles font office de sorte d'intermédiaires. C'est des grosses fondations, notamment l'European Climate Foundation et la Climate Works. En fait, elles-mêmes, elles sont financées par d'autres fondations, par d'autres et elles fondations, relaient l'argent. Enfin, c'est tout un système incroyable.
IKEA.
Ouais, HP, IKEA. En fait, je crois que l'ECF et la Climate Works, c'est parmi les plus grosses fondations qu'on a en Europe, ou les plus grosses. Je ne sais pas si elles ont le statut d'ONG, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, elles servent d'intermédiaire. Elles prennent l'argent d'autres fondations très importantes. Et du coup, elles brassent des sommes phénoménales, ces organisations. Elles brassent des millions, des centaines de millions d'euros chaque année. Et voilà, ça, c'est pas pour financer la révolution, évidemment.
Non, on peut même parler d'une forme sophistiquée de répression et de cooptation, puisque le système, sachant qu'il crée lui-même à la fois les conditions de sa contestation, mais il est en train de détruire absolument tout. Donc évidemment, il va y avoir une colère, et mieux vaut la canaliser, la mettre dans une impasse, ou si possible faire de l'argent avec, c'est encore mieux, en montant de toutes pièces des mouvements avec des objectifs tout pourris.
Ouais.
Pour nous, mais pas pour eux.
Voilà, mais pas pour eux. il y a un super livre qu'on peut conseiller. Malheureusement, il n'existe pas encore en français. J'espère qu'il sera traduit un jour. Qui a été écrit par un collectif. Il me semble que c'est un collectif de femmes. Il s'appelle le collectif s'appelle Insight, et le bouquin s'appelle The Revolution Will Not Be Funded, je crois. En français, c'est ça se donnerait La Révolution ne sera pas subventionnée. Et elle parle en fait de leur expérience dans le milieu des ONG et de comment elles se sont rendues compte de tout ça, de ce que ça impliquait en fait, le financement des ONG par des fondations, le financement des ONG, et elles en sortent très désillusionnées avec justement ce bouquin pour essayer de dénoncer ça, pour dénoncer ce problème qui prend une place aujourd'hui majeure et qui pourtant est très très peu connu, très très peu discuté. En France, je connais un seul livre en France qui parle un peu de ce problème-là, un seul livre récent en tout cas, il a écrit sur la, je sais plus qui est l'auteur, Lionel Astruc, si c'est ça. Il a écrit un bouquin sur la fondation de Bill Gates, la fondation Bill et Melinda Gates, et il explique comment en fait Bill Gates se sert de son argent au travers de cette fondation pour financer des trucs qui lui rapportent de l'argent en retour. Et bon, ça, là, c'est le même principe pour toutes les fondations, en fait. C'est les riches ne jettent pas l'argent par la fenêtre. Ils ne sont pas devenus riches en étant philanthropes, en donnant leur argent. S'ils investissent de l'argent quelque part, c'est parce que ça a un intérêt. Si ça n'avait pas d'intérêt, ils ne le feraient pas. Enfin, si ça n'avait pas d'intérêt pour eux, ils ne le feraient pas.
Peut-être on a fait le tour.
Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est bien pour un premier épisode.
Ouais, dans un prochain épisode, on verra si on parlera pas plutôt de quelque chose un peu plus local, français.
Voilà, un truc bien de chez nous, genre Cyril Lion ou. Ah, peut-être pourquoi le GIEC, pas. Ça pourrait être amusant.
Peut-être le GIEC, ouais. Ouais.
Parce que ils font quand même vachement parler d'eux.
Bah, en tout cas,
merci Lorenzo.
Merci Nicolas, on espère que ça vous a plu. Partagez ce podcast vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez lire évidemment le partage, écouter le podcast Floraison si vous ne connaissez pas déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en lien des articles ou des vidéos, des choses associées à tout ce qu'on vient de dire pour aller plus loin. Et voilà, merci.
Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.